France Culture, il est 18h, le journal avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Les attentats de Pâques au Sri Lanka revendiqués par l'État islamique. Deux frères sri-lankais ont manifestement joué un rôle clé dans ces attaques. Sébastien Farsi nous en dit plus dans un instant. La biodiversité en danger. Selon un projet de rapport de l'ONU, jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. François Fillon et son épouse Pénélope devront s'expliquer devant le tribunal correctionnel. Des soupçons d'emploi fictifs révélés pendant la campagne présidentielle de 2017. Rappel des faits avec Antoine Marette. Des petits déjeuners gratuits à l'école pour réduire les inégalités et permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions. L'initiative sera généralisée à la rentrée. L'organisation État islamique a donc revendiqué les attaques qui ont endeuillé le Sri Lanka dimanche. Selon le dernier bilan, ces attentats contre des églises et hôtels de luxe ont tué plus de 320 personnes et en ont blessé 500. Il s'agirait de représailles au massacre des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le 15 mars, un extrémiste avait alors tué 50 musulmans. On fait le point sur l'enquête avec notre correspondant dans la région, Sébastien Farsi.
Le ministre de la Défense vient de l'affirmer. Les attentats de ce dimanche de Pâques seraient une réplique à l'attaque d'un suprémaciste blanc contre la mosquée de Christchurch le mois dernier. Il se base pour cela sur une note de ses services de renseignement du 10 avril que nous avons pu consulter. Celle-ci affirme que l'un des leaders du groupe islamiste du National Tawhid Jamaat, qui aurait perpétré les attentats de dimanche, a commencé à mobiliser ses militants sur les réseaux sociaux depuis le jour de cette attaque en Nouvelle-Zélande. Ce militant envoyait alors des messages de haine contre les non-musulmans et prévoyait d'attaquer des églises catholiques ainsi que l'ambassade de l'Inde à Colombo. La revendication de l'État islamique, elle, n'est pas totalement une surprise car le gouvernement considérait déjà qu'un attentat d'une telle ampleur avait nécessité le soutien d'un réseau international. Ces multiples attaques contre des églises et des hôtels de luxe portent en effet la marque de fabrique de Daesh, mais il est difficile de savoir quelle aide a vraiment pu apporter cette organisation. On sait que 32 Sri Lankais sont partis ces dernières années en Syrie pour se battre aux côtés du groupe islamiste. Certains ont-ils pu revenir, influencer et former des musulmans Sri Lankais ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que le Sri Lanka renoue aujourd'hui avec la menace terroriste, une menace que cette île venait à peine d'éliminer après 26 ans d'une guerre civile sanglante qui avait vu naître les premiers attentats suicides du monde.
Les Sri Lankais ont observé ce matin 3 minutes de silence en hommage aux victimes et des cérémonies funèbres se sont succédées dans les églises. Antoine Guinard s'est rendu au cimetière de Madampitiya à Colombo, où des centaines de chrétiens sont venus enterrer leurs proches.
L'atmosphère, comme la chaleur, est pesante en ce milieu d'après-midi dans le cimetière de Madampitiya. Une vingtaine de policiers armés contrôlent l'entrée et des chiens renifleurs sillonnent les tombes fraîchement creusées à la recherche d'explosifs. Des photos de familles, d'enfants ont été déposées le jour même ou la veille sur les tombes marquées d'une croix de bois provisoire. Vers 15h, un cortège de plus d'une centaine de personnes en provenance d'une église voisine franchit la grille portant plusieurs cercueils. Les enterrements se succèdent et plusieurs femmes fondent en larmes, incapables de contenir leur douleur. Parmi elles, Lakshmi est venue avec son fils Asha et plusieurs de ses proches dire un dernier adieu à plusieurs membres de sa famille tués dans l'attentat à la bombe contre l'église Saint-Antoine pendant la messe de Pâques dimanche.
Ils sont allés à la messe en famille, 3 fils avec leurs parents pendant les attentats à la bombe. Je ne sais pas quoi dire, nous sommes malheureux, c'est dégoûtant. C'est notre famille, des enfants, des parents, c'est douloureux.
John, 18 ans, casquette vissée sur la tête et tatouage de Jésus sur le bras, est venu assister à l'enterrement de la famille d'un ami dont le corps a été mutilé par l'explosion.
Mon ami était venu prier à l'église quand l'explosion a retenti et il a été tué sur le champ. On vient de l'enterrer. Il avait 30 ans et sa femme et ses enfants ont été placés dans le même cercueil. Ils ont été mutilés par l'explosion, donc on a placé différentes parties du corps des 3 membres de la famille dans le même cercueil.
Pour la communauté chrétienne, c'est l'incompréhension qui règne après ces attentats meurtriers, revendiqués depuis ce mardi par l'État islamique. Plusieurs enterrements de masse doivent encore avoir lieu mercredi à Colombo, ainsi que dans la ville de Negombo, où l'attentat contre une église a été l'un des plus meurtriers.
Antoine Guinard à Colombo pour France Culture. L'Arabie Saoudite, implacable avec ses citoyens reconnus coupables de terrorisme. 37 personnes ont été exécutées aujourd'hui dans 6 régions du royaume. Il s'agirait de djihadistes sunnites et de militants chiites. Depuis le début de l'année, plus de 100 personnes ont déjà été mises à mort en Arabie. Système dégage, le slogan fétiche des manifestants algériens était à nouveau clamé aujourd'hui dans les rues d'Alger par des milliers d'étudiants. Ils réclament toujours le départ du système au pouvoir et le jugement de personnalités liées au président déchu Abdelaziz Bouteflika. De puissants hommes d'affaires, dont certains très proches de l'ancien chef de l'État, ont justement été arrêtés entre dimanche et lundi. Et le chef d'état-major de l'armée a donné cet après-midi une conférence de presse. La correspondance de Leïla Berato à Alger.
J'ai appelé l'appareil de la justice à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption. Dans un nouveau message, ce mardi, le chef d'état-major algérien assume qu'il est derrière les enquêtes qui ont amené à l'arrestation hier des frères Kouninef et de Issaad Rebrab, de grands patrons désormais accusés de corruption. Un certain nombre de personnalités économiques sont aujourd'hui interdites de sortie du territoire et après l'arrestation du chef du patronat, l'homme d'affaires Ali Haddad, le 31 mars dernier, le parquet d'Alger avait annoncé qu'une série d'enquêtes préliminaires était ouverte. Ahmed Gaïd Salah affirme aujourd'hui que ces opérations se poursuivront car selon lui, elles rassurent le peuple. L'argent pillé sera récupéré par la force de la loi, assure le premier responsable militaire du pays. Dans son message, le chef d'état-major s'attaque violemment aux corrompus et aux corrupteurs qui ont implanté, selon lui, je cite, « des bombes à retardement dans des structures vitales de l'État ». Enfin, il affirme à nouveau qu'il faut aller vers une élection présidentielle le 4 juillet prochain et il critique ceux qui ont refusé de participer hier à la grande réunion de discussion sur l'organisation de ces élections.
Leïla Berato à Alger. Le premier ministre japonais de passage à Paris, Shinzo Abe, a été reçu à l'Élysée. Et Emmanuel Macron et lui ont officiellement réaffirmé leur attachement à l'alliance Renault-Nissan. Ce partenariat industriel vient de fêter ses 20 ans et Renault-Nissan est un symbole majeur de la coopération industrielle entre la France et le Japon, affirme l'Élysée. Concernant la situation de l'ancien PDG Carlos Ghosn, Paris indique respecter la souveraineté et l'indépendance de la justice du Japon, tout en se disant vigilant concernant le respect des droits et de l'intégrité de Carlos Ghosn en tant que citoyen français. Un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité met l'homme face à ses responsabilités. Ce document doit être publié à l'occasion de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité qui se réunira à Paris la semaine prochaine. Et dans ce rapport, sur lequel travaillent 150 experts de 50 pays, il apparaît que les activités humaines menacent d'extinction jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales. Et les scientifiques redoutent une accélération rapide du phénomène, Véronique Rubérot.
Oui, ce rapport de 1800 pages, rédigé par des experts mondiaux sur le modèle des rapports du GIEC sur le climat, correspond aux mises en garde de nombreux scientifiques exprimés depuis plusieurs années. La Terre est au début d'une sixième extinction de masse, la première liée aux activités humaines. L'homme a déjà fait disparaître au moins 680 espèces de vertébrés depuis 500 ans. Sa destruction méthodique de la nature, dont il dépend pourtant, devrait mener à la disparition d'un million d'espèces animales et végétales, à court terme, puisque la plupart sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Le rapport de l'ONU souligne une accélération très rapide du taux d'extinction des espèces, les vertébrés en particulier. Or, met en garde le rapport, la disparition de cette biodiversité a un impact direct sur l'homme. Nourriture, énergie, médicaments, les apports que les populations tirent de la nature sont fondamentaux pour l'existence et la richesse de la vie humaine sur Terre. Et la plupart d'entre eux ne sont pas remplaçables, lit-on dans le rapport. 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie, 4 milliards utilisent une médecine naturelle et 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par les insectes. Le rapport estime aussi que 3/4 des surfaces terrestres, 40% des océans et la moitié des cours d'eau ont été gravement altérés. Sans surprise, les peuples autochtones, particulièrement dépendants de la nature, et les populations pauvres, déjà vulnérables aux impacts du réchauffement climatique, sont les premières victimes de cette perte de biodiversité.
Véronique Rebérot. François de Rugy veut donner l'exemple. Le ministre de l'Environnement va compenser les émissions de CO2 de ses déplacements, il l'a annoncé à l'occasion du lancement du label Bas Carbone. L'idée est de financer des projets de reboisement ou d'élevage en France pour réduire la pollution provoquée par ses voyages. Et François de Rugy espère convaincre les autres membres du gouvernement de faire comme lui. Les révélations qui avaient stoppé l'ascension de François Fillon en pleine campagne présidentielle vont le mener devant un tribunal. L'ancien candidat de la droite, alors favori des sondages, va devoir s'expliquer devant la justice avec son épouse sur les soupçons d'emploi fictif dont Pénélope Fillon aurait bénéficié. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Alors en tout, 3 personnes sont poursuivies dans cette affaire.
Oui, François Fillon, déjà ancien député qui devra répondre de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pénélope Fillon, collaboratrice de son époux et de son suppléant à l'Assemblée nationale, Marc Joulot, de 86 à 2013, pour complicité et recel des délits de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux, et également donc Marc Joulot pour détournement de fonds publics. Il n'est pas reproché à François Fillon d'avoir embauché son épouse comme assistante, à l'époque c'était légal, et de nombreux députés employés à ce poste un membre de leur famille. La question porte sur la réalité du travail effectué par Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale, tout comme 2 de ses enfants embauchés alors qu'il était au Sénat entre 2005 et 2007. Face aux enquêteurs, les avocats des époux Fillon ont produit de nombreux documents attestant à leurs yeux de la réalité du travail de Pénélope Fillon, mais sans les convaincre. Et ces enquêteurs estiment que le détournement de fonds s'élèverait à 1 million d'euros. Le procès pourrait se tenir à la fin de l'année 2019. François Fillon risque jusqu'à 10 ans de prison.
Antoine Maret. Le Conseil d'État rejette les requêtes d'épouses et d'enfants de djihadistes qui demandaient leur rapatriement en France. En première instance, le tribunal administratif de Paris s'était déclaré incompétent. En appel, même réponse du Conseil d'État à ces familles retenues dans des camps contrôlés par les Kurdes en Syrie. Les mesures demandées nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, explique le Conseil d'État. Or, de telles décisions relèvent de la diplomatie française. La grève se poursuit dans les services d'urgence de l'AP-HP. Selon la direction des hôpitaux, le taux de mobilisation reste stable à 35%. Des négociations sur les effectifs et sur la gestion des lits d'aval des urgences sont toujours en cours. Pour bien apprendre, les enfants ne doivent pas commencer la journée le ventre vide. Et pourtant, faute de temps ou de moyens, certaines familles sautent ce repas, considéré comme le plus important de la journée. Pour répondre à ce problème, le gouvernement va généraliser une initiative en cours actuellement dans 8 académies. Un petit déjeuner sera organisé dans les écoles volontaires des quartiers prioritaires. 6 millions d'euros seront débloqués cette année pour cette initiative, qui pourrait donc être généralisée à la rentrée à l'ensemble du territoire. Alors, est-ce vraiment à l'école d'organiser ses petits déjeuners? Le syndicat enseignant SNUIPP est très réservé. Ercine Lebovitch a joint Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation à l'université Lyon 2. Pour lui, cette mesure va plutôt dans le bon sens, à condition qu'elle soit bien accompagnée.
Je suis heureux pour ma part que le ministre s'intéresse à la question de la santé scolaire. Aujourd'hui, les médecins scolaires disparaissent ou diminuent. Aujourd'hui, les infirmières scolaires sont de plus en plus rares dans les établissements. Et que l'on reprenne conscience que la santé est importante et qu'un enfant ventre vide n'a pas d'oreille, ça me paraît de bon aloi. Et il faut, je crois également, que cela ne soit pas déconnecté complètement d'autres questions de santé, comme une question absolument essentielle pour la réussite scolaire, sur laquelle là on a des mesures extrêmement précises, qui est la question du sommeil.
D'accord.
Nos enfants dorment insuffisamment, ils sont fatigués à l'école, et bien sûr que c'est mieux de prendre un petit déjeuner, mais c'est bien aussi de le prendre en famille. Il faudrait aider toutes les familles à pouvoir offrir à leurs enfants ouais. un bon petit déjeuner le matin. Supprimer la télévision du matin aussi, hein, la télévision où on regarde des dessins animés, au lieu de parler avec ses parents et de se préparer mentalement à aller à l'école.
Philippe Mérieux, oui. Est-ce que vous pensez que ça stigmatise un certain nombre d'enfants de dire « vous avez droit à un petit déjeuner » parce que vous êtes pauvre, en gros.
Non, je crois que tout va se passer au niveau des établissements scolaires et de la confiance qui s'établira entre les enseignants, l'équipe des enseignants, les parents et la municipalité. Tant que les familles ne sont pas intégrées, tant qu'on ne travaille pas avec elles, on ne réfléchit pas avec elles sur ces questions de santé publique, ouais. eh bien on va vers des mesures qui risquent d'être un petit peu des mesures poudre aux yeux ou des mesures un peu technocratiques. Allons vers le terrain, réfléchissons avec les parents et surtout posons-nous la question au quotidien et au concret, comment ça va se passer dans les écoles tous les matins.
Le professeur en sciences de l'éducation, Philippe Mérieux. Protéger Notre-Dame de Paris de la pluie, c'est l'urgence du moment. Et des travaux de bâchage de la cathédrale ont débuté aujourd'hui. Ils devraient s'achever dans la semaine. Un peu plus tard, une sorte d'immense parapluie sera installée pour protéger le bâtiment des intempéries de façon plus permanente. en attendant, évidemment, la reconstruction. À propos de patrimoine, nous allons maintenant en Grèce où un débat fait rage au sujet du mythique port du Pirée. À quel point doit-il se moderniser ? En 2016, le géant chinois COSCO avait acheté la majorité des actions du port d'Athènes avec un projet ambitieux de transformation du port. Mais aujourd'hui, les archéologues grecs cherchent à calmer les ardeurs chinoises. Ils redoutent en effet de voir le plus grand port passager de la Méditerranée transformé en une sorte de Las Vegas pour touristes milliardaires. Quant au gouvernement grec, qui aimerait envoyer un signal positif aux investisseurs, il a du mal à trouver une solution acceptable pour tous, Angélique Coronis.
L'entreprise chinoise prévoit d'investir environ 600 millions d'euros au Pirée. C'est l'un des plus importants investissements du pays auquel le gouvernement d'Alexis Tsipras est très attaché. COSCO veut faire du pays un pont entre l'Asie et le vieux continent en le transformant en le plus grand centre de transit maritime du sud-est de l'Europe et il voit grand. Hôtel gratte-ciel, énorme centre commercial, terminal supplémentaire pour les produits pétroliers, deux nouveaux gigantesques quais pour bateaux de croisière, docks de marchandises à perte de vue. Sauf que le service archéologique a mis le holà en déclarant les trois quarts du Pirée, zone archéologique donc protégée par la Constitution et pratiquement inconstructible. Les investisseurs chinois ont fait savoir leur mécontentement au gouvernement qui se veut rassurant. Écoutez Kostas Stratis, vice-ministre de la Culture.
En premier, il faut savoir que le plan a été approuvé par les archéologues. L'investissement va se faire, mais il y aura des aménagements pour les protections des antiquités. Quelle zone doit être protégée ? L'ancienne ville, à l'intérieur des remparts du Pirée, qui est pleine d'antiquités. Il n'y a pas un chantier qui démarre au Pirée sans que le problème des antiquités soit posé. On doit le gérer.
La construction de gratte-ciel qui va dénaturer l'ensemble du paysage inquiète vraiment les archéologues. Pire, la tombe de Thémistoclès, un illustre politicien de l'époque classique, sera noyée dans le centre commercial et le mur antique du Pirée risque fort d'être transformé en parking. Les archéologues veulent entamer immédiatement des négociations, ce qui ne convient pas du tout aux investisseurs. Écoutez le directeur de la chambre de commerce gréco-chinoise, Dimitris Titopoulos.
Tout le monde était d'accord alors que les problèmes étaient connus. Ce contrat a été signé entre les parties, il doit être respecté. Quand on passe un accord, on ne peut pas revenir dessus.
Reste que le Pirée est une zone presque sinistrée, à risque commerçant, la quarantaine et pour cet investissement.
Il faut que cet investissement se fasse pour développer la région et donner du travail. Les vieilles pierres ici, personne ne vient les voir. Les gens vont voir l'acropole. Ici, ils vont voir quoi ? Pour que les gens viennent, il faut que toute la région soit réaménagée et valorisée.
Le gouvernement doit rencontrer prochainement le Conseil central des archéologues pour trouver une solution très rapidement, une solution d'autant plus compliquée que le pays est en pleine campagne électorale.
Angélique Coronis à Athènes. Et puis le grand-duc Jean de Luxembourg a succombé à une infection pulmonaire. Il avait 98 ans. Il avait régné pendant 36 ans sur le Luxembourg jusqu'à son abdication en 2000 au profit de son fils aîné Henri. Cinquième souverain d'une dynastie créée en 1890, Jean de Luxembourg était un descendant de Louis XIV. Populaire, réputé simple et affable, c'était une figure du grand-duché bien sûr, mais aussi de l'histoire européenne, Antoine Geoffin.
Le grand-duc héritier a 19 ans quand l'Allemagne envahit le Luxembourg le 10 mai 1940. La famille régnante se réfugie alors en France, au Portugal, puis à Londres. En 1942, Jean de Luxembourg s'engage dans l'armée britannique. Deux ans plus tard, il débarque à Bayeux, en Normandie. Stéphane Berg, journaliste franco-luxembourgeois et spécialiste des têtes couronnées.
Sa mère lui avait donné un petit bracelet où il y avait écrit dessus J de L, Jean de Luxembourg, RC, Roman Catholic, pour que il tombe, et il m'a raconté qu'il voyait ses camarades mourir autour de lui au moment du débarquement. Et que s'il meurt pendant les opérations de libération de Caen, de Bruxelles ou de Luxembourg, auxquelles il a participé, eh bien on puisse l'enterrer selon le rite catholique. Il a vraiment combattu au péril de sa vie.
Le 10 septembre 44, à la libération de Luxembourg, son peuple l'accueille en héros avec son père qui combat alors dans les troupes du général Patton. La paix revenue et même sans réel pouvoir politique, Jean de Luxembourg fera beaucoup pour l'Europe. Stéphane Bern.
En 1952, il se fiance à la sœur du roi des Belges, la princesse Charlotte de Belgique. Et c'est au fond ce qui a cimenté aussi le Benelux. Ensuite, la CECA, l'Union européenne du charbon, s'est faite à Luxembourg. Et donc, il a accompagné aussi ce mouvement. Le grand-duc Jean a toujours soutenu tout le projet européen et la construction européenne.
Le prix Charlemagne en 1986. Ce soir, son peuple le pleure sur le site internet du quotidien francophone L'Essentiel. Les Luxembourgeois et frontaliers rendent hommage au grand-duc Jean. Modeste, simple, proche du peuple, souriant sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent.
Et le Luxembourg est en deuil national jusqu'au 4 mai. Demain mercredi, le temps sera encore agité sur la plupart des régions avec des passages pluvieux, parfois orageux et du vent. Les températures varieront le matin entre 7 et 13 degrés. L'après-midi, il fera 13 à 24 de la Bretagne à l'Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.